La dernière leçon.
La petite fille se révéla être asiatique, âgée de 5 ou 6 ans, avec un très beau teint mordoré, des cheveux noirs d'ébène, un petit nez aplati, des lèvres charnues entrouvertes sur des dents du bonheur, des lèvres pleines de gaieté aussi, et puis des yeux fascinants, noirs de jais, avec une pointe de blanc en guise de pupille. Elle sourit et battit des mains tout excitée lorsqu'Eddie fit un pas supplémentaire vers elle. Après quoi, elle se présenta. « Tala, » dit-elle, en annonçant son prénom, les mains posées sur la poitrine. « Tala, » répéta Eddie. Elle souriait comme si c'était le début d'un jeu. Elle désigna son corsage brodé, mal attaché aux épaules et mouillé par l'eau de la rivière. « Baro, » dit-elle. « Baro. » Elle toucha le tissu rouge qui enveloppait son torse et ses jambes. « Saya. Saya. » Puis ce fut le tour de ses chaussures du genre sabot. « Bakia. » Des coquillages irisés à ses pieds, capise, et enfin d'une natte en bambou tissée, banig, étalée devant elle. Elle invita Eddie à s'y asseoir et l'imita en repliant ses jambes. Aucun autre enfant ne paraissait faire attention à lui. Il s'éclaboussait, faisait des roulades et ramassait des pierres au fond de la rivière. Eddie remarqua un garçon en frotter un autre à l'aide d'une pierre qu'il passait le long de son dos pour finir sous les bras. « Laver, » dit la fillette, « comme nos Ina. »« Ina. » Elle détailla le visage d'Eddie. « Les mamans, » expliqua-t-elle. Eddie avait entendu beaucoup d'enfants dans sa vie, mais dans la voix de celle-ci, il ne détectait aucune des hésitations que les enfants peuvent avoir face aux adultes. Il se demanda si, avec ses autres enfants, elle avait choisi ce rivage du ciel, ou si, étant donné leur peu de souvenirs, on leur avait choisi ce paysage serein. Elle montra du doigt la poche de la chemisette d'Eddie. Il baissa les yeux. « Les cure-pipes, ça, » dit-il. Il les sortit, les tordit et les assembla, comme il le faisait autrefois à Ruby Pier. Elle se mit à genoux pour examiner sa façon de procéder. Ses mains tremblaient. « Tu vois, c'est un... » Il termina la dernière torsade, un chien. Elle lui prit et sourit, un sourire qu'Eddie avait vu des centaines de fois. « Ça te plaît ?» lui demanda-t-il. « Tu m'as brûlé, » lui répondit-elle. Eddie sentit sa mâchoire se contracter. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Tu m'as brûlé, enflammé. » Sa voix était monocorde, comme celle d'un enfant récitant une leçon. « Mon Ina !» Elle m'a dit d'attendre... « Dans la nipa. Mon Nina, elle m'a dit de se cacher. » Eddie baissa la voix avec des mots lents et précis. « De quoi tu te cachais, ma puce ?» Elle tripota le chien en cure-pipe, puis le plongea dans l'eau. « Sondalong, » répondit-elle. « Sondalong. » Elle leva les yeux. « Un soldat. » Le mot fit à Eddie l'effet d'un couteau dans la langue. Des images jaillirent dans sa tête. Des soldats, des explosions. Morton, Smithy, le capitaine, les lance-flammes. « Tala !» murmura-t-il. « Tala !» répondit-elle en souriant de son propre prénom. « Pourquoi tu es ici au ciel ?» Elle posa l'animal. « Tu m'as brûlé, enflammé. » Eddie sentit un battement derrière ses yeux. Tout se bouscula dans sa tête. Sa respiration s'accéléra. « Tu étais aux Philippines, l'ombre, dans cette cabane ?»« La nipa. Ina, elle m'a dit que je serais à l'abri là. Alors l'attendre, pour être à l'abri. Puis un grand bruit, grand feu. Tu m'as brûlé. » Elle secoua ses épaules étroites. « Moi, pas à l'abri. » Eddie déglutit. Ses mains tremblaient. Il plongea son regard dans ses grands yeux d'un noir intense et tenta de sourire, comme si c'était là le remède dont la fillette avait besoin. Elle lui rendit son sourire, ce qui le démonta davantage. Son visage se décomposa et il l'enfouit contre ses mains. Ses épaules et ses poumons ne résistèrent plus. L'obscurité qui, durant toutes ces années, l'avait entouré de son ombre, finissait par se lever. Elle était bien réelle, cet enfant de chair et de sang. Cet enfant adorable, et il l'avait tué, l'avait fait mourir par le feu. Les cauchemars qu'il avait traversés, il les méritait tous. Il avait donc bien vu quelque chose. cette ombre à travers les flammes, morte de sa main, de sa propre main, comme diabolique. Un flot de larmes filtra à travers ses doigts et son âme lui donna l'impression de s'effondrer. Il poussa un cri plaintif et un hurlement s'éleva, émis par une voix qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Un hurlement venu du cœur même de son être, un hurlement qui fit gronder les eaux de la rivière et trembler l'air brumeux des cieux. Son corps se convulsa et sa tête tressauta comme folle jusqu'à ce que le hurlement cède la place à un semblant de prière dont chaque mot était craché sous la pression essoufflée de la confession. « Je t'ai tué. Je t'ai tué. » Puis il murmura « Pardonne-moi. » Suivi de « Pardonne-moi. Oh mon Dieu. » Et pour finir, « Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il pleura encore et encore, jusqu'à ce que ses pleurs l'épuisent et le fassent trembler en silence, se balançant d'avant en arrière. Il était agenouillé sur une natte au bord d'une rivière, devant une fillette aux cheveux noirs, qui jouait avec son animal en cure-pipe. Au bout d'un moment, quand son angoisse se fut calmée, Eddie sentit qu'on lui tapotait l'épaule. Il leva les yeux et vit Tala qui lui tendait un caillou. « Tu me laves ?» dit-elle. Elle avança dans l'eau, il lui tourna le dos, puis elle enleva le barreau brodé. Il eut un mouvement de recul. Sa peau était terriblement brûlée. Son torse et ses épaules étroites étaient noires, carbonisées et envahies par les boursouflures. Quand elle se retourna, son beau visage innocent était criblé de cicatrices grotesques. Ses lèvres tombaient et un seul œil était ouvert. Sa chevelure avait laissé la place à des plaques de cuir chevelu brûlées, couvertes maintenant de croûtes sèches et marbrées. « Tu me laves », lui répéta-t-elle en lui tendant le caillou. Eddie se traîna dans la rivière et prit le caillou. Ses doigts tremblaient. « Je ne sais pas trop comment », murmura-t-il, à peine audible. « J'ai jamais eu d'enfant. » Elle leva sa main carbonisée et Eddie la saisit doucement, puis frotta lentement le caillou le long de son avant-bras, jusqu'à ce que les cicatrices commencent à s'atténuer. Il frotta plus fort, elles pelèrent. Il redoubla d'efforts jusqu'à ce que la chair brûlée tombe, découvrant une chair saine. Puis, il retourna le caillou et frictionna son dos osseux, ses minuscules épaules et sa nuque, en finissant par ses joues, son front et derrière ses oreilles. Elle se laissa aller contre lui, appuyant sa tête sur son épaule et fermant les yeux comme pour une sieste. Ses doigts suivirent doucement le contour des paupières. Il fit de même pour les lèvres difformes et les plaques couvertes de croûtes sur sa tête, jusqu'à ce que des cheveux noirs d'ébène se mettent à pousser et qu'il ait à nouveau devant lui le visage qu'il avait vu la première fois. Quand elle ouvrit les yeux, leurs blancs, tels des balises, jetaient des éclairs. « 5 !» murmura-t-elle. Eddie abaissa le caillou et frissonna. Sa respiration était courte et haletante. « 5 !»« Ah oui ? Tu as 5 ans ?» De la tête, elle lui fit signe que non. Elle tendit alors 5 doigts, qu'elle enfonça dans la poitrine d'Eddie comme pour dire « ton 5 !»« Ta 5e personne !» Une brise tiède se leva, une larme coula sur la joue d'Eddie. Tala l'observa comme un enfant observe un insecte dans l'herbe. Puis, elle parla dans le vide. « Pourquoi triste ? » dit-elle. « Pourquoi je suis triste ? » chuchota-t-il. « Ici ? » Elle pointa le doigt plus bas. « Non ? Là ? » Eddie sanglota un dernier sanglot vide comme si sa poitrine était à sec. Il avait laissé tomber toutes ses défenses. Un langage d'adulte à enfant n'était plus de mise. Il lui confia alors ce qu'il avait confié à Marguerite, à Ruby, au capitaine, à l'homme bleu, et plus qu'à tout autre, à lui-même. J'étais triste parce que j'ai finalement rien fait de ma vie. J'étais personne, et j'ai rien réussi. J'étais paumé. J'ai la détestable impression de ne pas avoir été à ma place. Tala récupéra dans l'eau le chien en cure-pipe. « Si, à ta place, dit-elle, ou sur Ruby Pier ?» Elle hocha la tête. « À réparer les manèges ? C'était ça, ma vie ?» Il souffla profondément. « Pourquoi ?» Elle inclina la tête sur le côté, comme si c'était évident. Les enfants, tu les as protégés? Tu as été bon à cause de moi, lui expliqua-t-elle. Elle tortilla le chien contre la chemisette d'Eddie. À ta place, dit-elle. Et avec un petit sourire, elle toucha alors l'écusson sur sa chemisette en ajoutant ces deux mots. Eddie, entretiens. Eddie s'effondra dans la rivière. Les cailloux de ses histoires l'entouraient tous à présent, l'un chevauchant l'autre dans le lit du ruisseau. Il sentit sa forme fondre et se dissoudre. Il n'en avait plus pour longtemps. Quoiqu'il soit advenu des cinq personnes qu'il avait rencontrées au ciel, c'était à son tour maintenant. « Tala, murmura-t-il. Elle leva les yeux. « La fillette de la fête foraine. Tu sais quelque chose sur elle ?» Tala fixa le bout de ses doigts et hocha la tête affirmativement. « Est-ce que je l'ai sauvée ? Est-ce que je l'ai tirée de là ?» Tala secoua la tête. « Pas tirée ?» Eddie frémit. Sa tête retomba. Et voilà, voilà comment finissait son histoire. « Poussée !» poursuivit Tala. Il releva les yeux. « Poussée ? Pousser ses jambes, pas tirer. Tu l'as poussée. La grosse chose, elle tombe. Tu l'as sauvée. » Eddie ferma les yeux comme pour nier. « Mais j'ai senti ses mains. C'est le seul détail dont je me souviens. Je n'aurais pas pu la pousser. J'ai senti ses mains. » Tala sourit et écopa de l'eau dans la rivière. Puis, elle glissa ses doigts humides sur la grosse main d'Eddie. Il sut immédiatement qu'elles y avaient déjà été. « Pas ses mains à elle, dit-elle. Mes mains. Et maintenant, moi, je t'emmène au ciel pour être en sécurité. » Là-dessus, la rivière enfla rapidement, montant jusqu'à la taille, puis jusqu'à la poitrine et jusqu'aux épaules d'Eddie. Avant qu'il ne puisse reprendre sa respiration, le bruit des enfants au-dessus de lui disparut et il fut submergé par un courant aussi impétueux que silencieux. La main de Tala était toujours dans la sienne, mais il sentit son corps emporté loin de son âme, sa chair loin de ses os, et c'est ainsi que s'envolèrent toute la souffrance et la lassitude qu'il avait toujours en lui, chaque cicatrice, chaque blessure et jusqu'au moindre mauvais souvenir. Il n'était plus rien maintenant, une simple feuille au fil de l'eau, et elle le tira doucement à travers ombre et lumière, à travers toutes les nuances de bleu, d'ivoire, de jaune vif et de noir, dont il s'aperçut alors que chacune de ces couleurs, sans exception, représentait les différentes émotions de sa vie. Elle lui fit traverser les déferlantes d'un immense océan gris et il émergea dans une lumière rayonnante au-dessus d'une scène presque incroyable. Il s'agissait d'une fête foraine avec des milliers de gens, hommes et femmes, pères, mères et enfants, des tas d'enfants, enfants du passé et du présent, enfants à naître, côte à côte, main dans la main, avec leurs casquettes et leurs pantalons courts, des gens qui remplissaient la promenade, les attractions, les plateformes en bois, assis sur les épaules et les genoux les uns des autres. Ils étaient là, ou seraient là, à cause des gestes simples et banals effectués par Eddie au cours de sa vie, des accidents qu'il avait évités, des manèges qui l'avaient rendu plus sûr, des tournées de vérification quotidiennes que personne n'avait jamais remarquées. Et bien que leurs lèvres ne bougent pas, Eddie entendait leur voix, bien plus de voix qu'il n'aurait pu imaginer. C'est alors qu'une paix jusqu'ici inconnue descendit sur lui. Tala ne lui tenait plus la main à présent, et il monta en flottant au-dessus du sable de la promenade, au-dessus des stands et des clochetons de l'allée centrale, vers le sommet de la grande roue blanche où, dans une nacelle qui se balançait doucement, une femme en robe jaune, sa femme Marguerite, l'attendait, les bras ouverts. Il s'en approcha, vit son sourire, et les voix se façonnèrent en une seule expression, divinement délicieuse. « Notre petit nid ».